Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Inhumation ce mercredi 15 mai à Nyiragongo des 35 corps des victimes des bombardements par le M23 d'un site des déplacés de Mugunga au nord Kivu le 3 mai dernier. Avant l'enterrement proprement dit, la cérémonie des funérailles devra se dérouler tout à l'heure au stade de l'unité à Goma. Devront prendre part à cette cérémonie plusieurs autorités locales et nationales, dont le ministre des médias et porte-parole du gouvernement. Nous y serons aussi avec notre reporter sur place, Gabriel Wamenya. Interruption du trafic ferroviaire depuis janvier dernier sur les axes Kalemie-Kindu et Kalemie-Lubumbashi dans la province du Tanganyika. Le pont Luizi, situé à la limite entre les territoires de Kabalo et Nyunzu, s'est effondré. Le directeur de région des Grands Lacs de la SNCC annonce que les travaux devront commencer dans un proche avenir pour réhabiliter ce pont. Le ministre provincial de transport du Tanganyika est notre invité. Cyprien Katombe va parler des mesures prises par le gouvernement provincial pour sécuriser les passagers et leurs biens lors de la navigation sur les lacs Tanganyika. Bonjour à tous. Au micro, Noéla Luzitu Kabambi. Nous commençons par le Nord Kivu, où les 35 déplacés victimes des bombardements du 3 mai dernier sur deux sites au quartier Mugunga vont désormais reposer dans leur dernière demeure. Le début des cérémonies des obsèques se fait toujours attendre sur l'espace du stade de l'unité à Goma, où les invités sont sur place et l'arrivée des officiels est annoncée par le service du protocole. Gabriel Wamenya, vous êtes notre envoyé spécial à cette cérémonie. Vous êtes sur place donc. Bonjour Gabriel. Quelle est l'ambiance qui règne en ce moment au stade de l'unité?
Bonjour Noéla Luzitu Kabambi, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Kapi. Nous sommes exactement sur l'esplanade du stade de l'unité dans la commune de Karisimbi, où nous attendons d'un moment à l'autre d'abord l'arrivée des officiels et par après ce sont les corps des victimes du dernier bombardement des rebelles du M23 qui est attendu. Bon, la cérémonie a un peu traîné, a été retardée puisque, selon les informations officielles, il y avait les experts internationaux qui menaient l'expertise sur les corps des victimes pour confirmer si réellement ces victimes ont été tuées par bombe ou par une autre arme sophistiquée. Donc les experts en balistique sont arrivés hier ici à Goma et ils ont procédé ce matin à l'expertise sur les corps des victimes.
Oui, en attendant l'arrivée des corps, quelle est l'attitude de l'assistance qui assiste à cette cérémonie?
Une vive émotion, Noéla Luzitu, et la consternation.
Oui, Gabriel, après les oraisons funèbres, que prévoit la suite du programme de cette cérémonie?
Bon, juste après les oraisons funèbres qui sont attendues tout à l'heure, le convoi mortuaire va se diriger vers les cimetières dans un site déjà désaffecté par les autorités provinciales, pour où seront mises en terre toutes ces victimes.
Merci beaucoup Gabriel. Je rappelle que vous nous parliez depuis le stade de l'unité où se tiennent les cérémonies des obsèques des 35 victimes des bombardements du M23 du 3 mai dernier. Ce mercredi 15 mai, c'est donc une journée de deuil pour la République démocratique du Congo en mémoire de ces personnes. Le gouvernement de la RDC apporte son soutien à toutes les familles éplorées. Déclaration du ministre des médias et porte-parole du gouvernement à son arrivée à Goma. Selon Patrick Muyaya, ce drame touche l'ensemble de la RDC. Patrick Muyaya est dans cet extrait choisi par Paul Matendo.
Des compatriotes ont été tués sauvagement par des bombes qui sont venues de l'armée rwandaise et qui ont tué 35 de nos compatriotes. C'est un crime de guerre parce qu'ils étaient dans un camp des déplacés. À côté du gouvernement provincial, le gouvernement de la République apporte depuis les premiers jours l'assistance qu'il faut aux familles des victimes. Mes collègues de droits humains et de la solidarité des affaires humanitaires sont là. Je viens moi-même en appui parce que c'est une journée de deuil, une journée de célébration pour tous les compatriotes qui ont été fauchés. 35, c'est un événement national pour lequel je me devais de faire les déplacements comme membre du gouvernement pour venir témoigner de l'appui du gouvernement et de la compassion pour toutes les familles éplorées. Et nous serons au stade des lieux prévus pour les funérailles et nous espérons que tous seront vêtus de noir en signe de soutien et de compassion à ses compatriotes qui sont fauchés, parce que c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée par ces deuils.
Quant aux nouvelles du front, notez que des affrontements ont opposé dans la matinée de ce mercredi le M23 appuyé par le Rwanda aux forces armées congolaises appuyées par les groupes armés locaux sur plusieurs fronts. C'est notamment dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Si l'intensité des combats baisse progressivement, la situation reste très volatile dans ces zones, indiquent nos sources Bernard Nyangi.
En territoire de Rutshuru, ce sont les combattants d'un groupe Mai Mai qui ont lancé une attaque contre le M23 vers 6h locale dans un lieu appelé Tigo, à 2 km de l'enclave de pêche de Vichumbi. C'est en plein parc national de Virunga. Après environ 3 heures de combat, les Mai Mai auraient décroché, indiquent nos sources. Par ailleurs, dans la même chefferie de Buito, quelques éléments FRDC et combattants locaux ont attaqué une autre position des rebelles à Kitetero entre Kibirizi et Kikuku. Là aussi, l'échange des tirs aurait duré environ 2 heures, indique nos sources. Dans le territoire de Masisi, en revanche, ce sont les rebelles du M23 qui multiplient les attaques. Après l'occupation des groupements Kibabi, Matanda, Karuba, Ufamandu 1 et une partie de Boabo, ce mercredi matin, ils auraient occupé les villages de Luke et Mulema dans le groupement de Nyamaboko au sud de Masisi. Saisis sans combat, après que les combattants locaux qui occupaient la zone ont décroché, déplorent nos sources. Dans la même zone, la situation reste très volatile, notamment à Katale, environ 10 km du chef-lieu du territoire de Masisi. C'est à la suite d'une avancée des rebelles stoppée hier mardi au niveau de Kaniro, à près de 2 km de Katale, par une résistance de groupes armés locaux. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la société civile de Malembankoulou dans la province du Olomami alerte sur la résurgence de l'activisme des miliciens Maïmaï, notamment dans le secteur de Badia. L'information est confirmée par l'administrateur du territoire de Malembankoulou qui indique que ces miliciens sont auteurs de plusieurs forfaits. On écoute Joël Kayembe, joint par Jean Gandou.
Ici chez moi, dans les territoires de Malembankoulou, il y a un mouvement insurrectionnel guidé par le fils du feu, seigneur de guerre, Makabe. Il y a de cela 2 mois qui a suscité ce mouvement et derrière lui, des politiciens de mauvais goût qui n'aiment pas le Congo, ils ont érigé leurs barrières à la sortie du village Moussao où ils rançonnent, ils torturent. Ils violent paisibles citoyens qui souffrent des Congolais. Ils sont allés très loin à Bunda, dans les groupements Bunda, ou juste dans les villages Lukangapeti, où ils ont appelé beaucoup de jeunes et les ont lavé leurs histoires communément appelées les Anti ou les Bizaba. Tout ça pour déstabiliser notre territoire. À Kasenga, ces histoires ont existé il y a un long moment. J'ai déjà informé au gouvernement provincial. Tous ensemble, nous sommes debout pour traquer et mettre la main sur tout un chacun qui serait impliqué dans ces sales histoires.
Drame ici à Kinshasa. Une des grandes citernes de la minoterie Mino-Congo chargée de blé est tombée vers 2h du matin sur une maison voisine à cette usine, causant la mort de 2 personnes. Les faits ont eu lieu sur l'avenue Ntango au quartier Gébé dans la commune de la Gombe. Les victimes sont un enfant et une femme âgée. Un ouvrier de l'usine qui effectuait des travaux sur la citerne, d'après des témoins, est lui toujours porté disparu. Il serait tombé dans la citerne d'après des sources sur place. Il a fallu plusieurs heures pour retirer les corps des 2 premières victimes sous l'avalanche de son de blé qui les recouvrait. Retour dans la province du Tanganyika. Le trafic ferroviaire est interrompu depuis janvier dernier sur les axes Kalemie-Kindu et Kalemie-Lubumbashi et pour cause, l'effondrement du pont Luizi à la limite entre les territoires de Kabalo et Nyunzu. Le directeur de la région des Grands Lacs de la SNCC annonce que des travaux seront amorcés incessamment pour réhabiliter ce pont. Le point avec Paula Munanga.
Depuis 5 mois, le train n'a pas quitté la gare de Kalemie vers Kabalo. À partir de Kabalo, il y a 2 directions. Celle qui mène vers Kindu dans les Maniema en passant par Kongolo et Samba. Et celle qui mène vers Lubumbashi dans le Haut-Katanga en passant par Kabongo, Kamina, Luena et Likasi. Le trafic ferroviaire est interrompu sur ces différents axes. Les ponts jetés sur la rivière Luizi s'est effondré. D'après une source proche de la SNCC à Kalemie, la vétusté du pont est à la base de cette situation. Le directeur des régions des Grands Lacs de la SNCC annonce qu'il est question d'attendre la baisse du niveau des eaux de la rivière Luizi qui sont montées avant d'amorcer les travaux de réhabilitation. Sami Ilungawa Umba rassure qu'à partir de la semaine prochaine, une locomotive du chantier pourrait apporter du matériel sur les lieux où les ponts s'est écroulé et un chantier sera mis en place. Signalons par ailleurs que la SNCC fait face à d'autres difficultés, indiquent certaines sources. Une partie de la voie ferrée dans la ville de Kalemi est sous les eaux du lac Tanganyika suite à des inondations. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, on signale une baisse sensible des prix des diamants sur les marchés locaux. Les creuseurs et les négociants affirment que les pierres précieuses produites localement n'ont plus des prix fixes. Au Conseil provincial des diamantaires, on parle plutôt de la loi de l'offre et de la demande. Esther Ndalafina.
Les activités d'achat et de vente de diamants tournent au ralenti depuis le début de l'année dans la province du Kasaï oriental, reconnue comme étant la capitale diamantifère. Au comptoir Belaspe Evadiam, plusieurs tables ne sont plus occupées par les négociants. Explication de Taylor Mbouyi, négociant au comptoir Vadiam.
Les diamants sont en baisse. Nous cherchons comment écouler nos matières. Et comme les Libanais ne sont pas là, il n'y a pas d'acheteurs, pas d'argent. Nous ne faisons rien ici. Avant, ce sont les Libanais qui nous achetaient. Ils ne sont plus là.
La baisse de prix des diamants affecte également l'exploitation artisanale. Jérémy Mukuna dit avoir fait des navettes avec son colis de diamants sans trouver un bon acheteur.
Notre travail ne marche pas bien. Nous proposons les diamants pour vendre le bon qualité là à moins cher.
Au Conseil provincial des diamantaires, on parle de la loi de l'offre et de la demande. À titre illustratif, le carat de diamant appelé noir, vendu autrefois à 2 dollars, se négocie en dessous de 1 dollar. Dieudonné Kalala, Kapukubo Boya, président du CPD.
Sur le marché mondial, il y a baisse dans le secteur du diamant. Les prix augmentent en fonction de la demande et de la qualité des marchandises même.
Les creuseurs, les négociants attendent tous la saison sèche pour acheter et vendre les pierres précieuses de qualité, espérant que cela peut changer la tendance. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Au Kasaï central voisin, la cour d'appel a confirmé définitivement hier Joseph Moïse Kambulu et Job Kouindama comme gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï central. C'est à la suite des élections organisées par la CENI le 29 avril dernier, élections qu'ils ont remportées avec 19 voix sur 34 députés provinciaux votants. Dans la province du Maniema, 5029 cas de tuberculose, dont 123 décès ont été enregistrés en 2023 dans toutes les 18 zones de santé du Maniema. Chiffre donné par Dr. Raphaël Ngongo Omeonga, médecin coordonnateur provincial de lutte contre la tuberculose dans la province du Maniema. Il l'a dit en marge de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars, mais qui a été célébrée hier mardi seulement au Maniema. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Il a été notifié pour l'année 2023 pour le Maniema 5029 cas de tuberculose, parmi lesquels 5000 cas de tuberculose sensible et 25 cas de tuberculose pharmaco-résistante. Nous avons eu à enregistrer 123 décès de tuberculose en 2023. Il est à noter qu'au Maniema, nous avons connu une régression de 4% liée aux deux grands problèmes que nous avons eu à connaître. Le premier, il y avait une rupture généralisée en entrant des diagnostics de la tuberculose. Les entrants des îles pendant 6 mois. Cette rupture était du niveau national, du début de la deuxième trimestre jusqu'à la fin du troisième trimestre 2023. Il y avait aussi une grève généralisée des professionnels de santé non médecins du troisième au quatrième trimestre pendant 75 jours dans notre province. Tout cela a fait que la détection, ou bien précisément le nombre de cas, a diminué comparativement à ce que nous avons fait comme travail en 2022. Suivant notre objectif qui était fixé de diagnostiquer au moins 55% des cas incidents et tuberculose attendus, nous étions arrivés à 49%. Nous nous réjouissons du fait que tous les malades qui entrent dans la prise en charge, la grande majorité, ont terminé leur traitement avec succès.
Actualité internationale.
L'ancien président du Gabon, Ali Bongo, a entamé hier, 14 mai, une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Soutenu par deux de ses fils, Jalil et Bilal Bongo, et aussi en résidence surveillée, Ali Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils et proche conseiller Noureddine.
L'invité.
Le gouvernement provincial du Tanganyika a pris certaines mesures pour sécuriser les passagers et leurs biens lors de la navigation sur le lac Tanganyika. L'invité de la rédaction ce midi, c'est Cyprien Katombe, ministre provincial de transport du Tanganyika. Il nous en parle dans cet entretien avec Paulin Munanga.
Monsieur le ministre Cyprien Katombe, bonjour.
Bonjour monsieur Paulin.
Après le naufrage du bateau Benita sur le lac Tanganyika, qui a fait des morts, des disparus, et il y avait aussi des survivants. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise?
Je crois que c'était dans la nuit du 6 au 7 avril 2024 que nous avons connu le naufrage du bateau MV Benita dans les lacs Tanganyika. Il y avait des disparus, il y avait aussi des rescapés. Après ce drame, les mesures que nous avions eu à retenir au niveau du ministère provincial des transports sont notamment l'interdiction à tous les armateurs de faire quitter les bateaux au port public de Kalemi sans la disposition de bouées de sauvetage aux passagers. Alors non seulement la mise en place soit la disposition des bouées de sauvetage, mais également les systèmes de communication dans leurs bateaux. Parce que nous avions constaté quand les bateaux se retrouvent dans un problème, soit dans les cris de détresse, il faut communiquer le commissariat maritime pour que cet organe puisse organiser un secours rapide. Et s'il n'y a pas un système de communication, les bateaux se retrouvent toujours en difficulté. Voilà pourquoi nous avions pris une note circulaire. Et dans notre note circulaire, nous avions épinglé les mesures selon lesquelles l'interdiction formelle de sortie des bateaux sans la disposition des bouées de sauvetage aux passagers, c'est-à-dire quand votre unité, soit votre bateau, a la capacité de transporter, par exemple, 100 personnes, il faut disposer aussi 100 bouées de sauvetage.
Il y a aussi le problème des surcharges.
Oui, il y a aussi le problème des surcharges. Dans notre note circulaire, nous avions épinglé cela. Nous avions dit que tout chargement du bateau ne puisse pas dépasser la ligne de flottaison. Vous allez regarder, constater dans le bateau, il y a une ligne de flottaison qu'on ne peut pas dépasser en ce qui concerne les chargements des marchandises ou soit d'autres biens. Alors nous avions interdit que tout chargement ne puisse pas dépasser cette ligne pour nous éviter des naufrages.
Pour éviter les naufrages, monsieur le ministre, pourquoi attendre d'abord qu'il se produise un tel drame, donc le naufrage, pour que vous preniez des mesures? Pourquoi ne pas prendre ces mesures-là en amont?
Avant nous, il y avait déjà des mesures qui étaient prises au niveau du commissariat maritime. Alors ces mesures n'étaient pas observées ou soit respectées. Alors avec notre arrivée et après avoir constaté le drame qu'il y a eu dans la nuit du 6 au 7 avril, nous avions renforcé ces mesures par l'élaboration d'une note circulaire demandant à ce que tous les armateurs qui sont propriétaires des bateaux ou soit des unités d'embarcation flottant sur les lacs puissent respecter les nouvelles mesures telles que dictées par nous.
Mais nous apprenons qu'il y a certains armateurs qui se permettent de vendre des bouées de sauvetage aux passagers. Êtes-vous informé de cette situation?
En fait, je ne suis pas du tout informé, mais j'avais tenu une réunion avec tous les armateurs et dans cette rencontre, j'avais donné des instructions claires disant la responsabilité des armateurs, c'est celle de disponibiliser les bouées de sauvetage à tous les passagers qui payent les billets, parce que les passagers payent les billets et au retour ils doivent recevoir de l'armateur
gratuitement,
capitaine, un bouée de sauvetage gratuitement. Pourquoi? Parce que avant de monter dans les bateaux, ils payent déjà leurs billets.
Et comment faites-vous pour faire le suivi de l'exécution de toutes ces mesures?
Au port, nous avons un organe chargé d'exécution ou soit de suivi de cette mesure, c'est le commissariat maritime. Nous avons un commissariat maritime qui est installé au port. Le commissariat a des inspecteurs qui sont disponibles au port. Et ce sont ces inspecteurs-là, avec le commissaire maritime, qui doivent veiller à l'exécution de la mesure. Parce qu'avant qu'un bateau ou une unité ne quitte le port, on les délivre souvent un permis de sortie. Et avant d'avoir ce permis-là de sortie, le commissariat maritime doit se rendre compte que toutes les mesures ont été respectées par l'armateur.
Monsieur le ministre Cyprien Katumbe, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal sur Radio Okapi, la grande édition de la mi-journée. À la présentation des éditions d'information depuis 5 heures ce matin, c'était Noëlla Luzitu Kabambi dans une mise en onde de Jean-Claude Siala Mwanamakengo Nswalu sous la coordination de Élisée Chikota Chivweta. Place à présent au journal des sports avec Vanessa Nkongolo.